notre transition numérique, notre smart city,
le logement,
l'énergie, l'habitat,
le rôle majeur des villes,
l'urbanisation, le développement durable,
vivre dans les villes.
Think Cities, le podcast. Retrouvez le résumé de l'actualité urbaine chaque semaine, traité par la rédaction de New Storm Cities.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de New Storm Cities, le podcast, l'actualité de la semaine précédente dans un format de 10-12 minutes pour les décideurs, dédiés aux décideurs, spécialisés sur la ville, nos quatre domaines, immobilier, habitat, logement, aménagement, urbanisme, architecture, mobilité, logistique, énergie, environnement et transition. Pour en 10, 12, 13 minutes, on peut dépasser de temps en temps, avoir en tête en ce début de semaine l'actualité la plus pertinente, les informations les plus importantes qui, la semaine dernière, ont animé l'actualité et le fil d'information New Storm Cities. Sans plus attendre, tout de suite, un document exclusif publié chez New Storm Cities, c'est la réforme d'Action Logement. Vous savez, Action Logement, c'est la participation des employeurs à l'effort de construction, c'est ce qu'on appelle le 1% logement. Et il y a une consultation, parce que le but, c'est de revoir l'organisation, la gouvernance. L'État dit, bon, il faut fonctionner autrement. Les partenaires sociaux participent à cela, les employeurs. Bref, donc, ça devait se terminer, cette concertation, fin avril. Finalement, ça a été reporté avec les ministères concernés, la direction d'Action Logement, avec M. Arkady Pan, qui est le président, Nadia Bouyer, qu'on connaît bien, qui est la directrice générale, et les syndicats, les partenaires sociaux qui ont remis une note que nous avons obtenue et qui préconisent un certain nombre de mesures dans le cadre de cette réforme. Donc, évolution du modèle économique de l'APEC, participation des employeurs à l'effort de construction, je le redis. Alors, les partenaires sociaux, ils disent, voilà, le monde évolue, le 1% a toujours évolué, il faut continuer à évoluer. Nous, on a des propositions concrètes avec une opposition claire à la budgétisation de l'APEC. La budgétisation de l'APEC, c'est que, finalement, on ponctionne chaque année l'État, une part des budgets. Certains disent, attention, on met en cause le modèle, parce que, notamment, on ponctionne sur le flux, ne reste que le stock. Pour générer des flux, vendre le stock. Donc attention, il y a un système qui a fait ses preuves, on peut en améliorer le fonctionnement, mais on est contre la budgétisation de l'APEC, y compris pour des questions de dialogue social et de paritarisme. Alors, ils nous le disent, les partenaires sociaux demeurent opposés aux ponctions régulières opérées par l'État, qualifiées d'à-coup permanents qui ne peuvent constituer un chemin satisfaisant pour mener une politique du logement pérenne et efficace. Et d'ailleurs, en 2021, je vous le rappelle, le prélèvement de 1 milliard sur la trésorerie du groupe a été voté en loi de finances, faisant suite à un premier prélèvement de 500 millions d'euros dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2021. Alors, eux, ils proposent de répartir les emplois de l'APEC à travers trois missions. Mission 1, accompagner les salariés dans leur parcours résidentiel avec l'emploi. Ils proposent de mettre 6 milliards là-dessus. Répondre à la diversité des besoins dans les territoires métropolitains et ultramarins, 4 milliards. Mission 3, contribuer à la transition écologique et à la stratégie bas carbone, 2,5 milliards. Alors pour eux, il y a deux étapes préalables à une éventuelle révision du modèle économique de l'APEC. S'accorder sur les objectifs 2022-2027. Acter, deuxième, les actes de transformation proposés dans un calendrier négocié. Alors ensuite, vous avez tous les sujets sur le conseil stratégique, comment va fonctionner ce futur conseil stratégique qui est proposé par les partenaires sociaux, l'organisation. Donc tout ça, vous le retrouvez sur New Storm Cities dans notre domaine immobilier, habitat, logement. Alors, l'immobilier, l'habitat, logement, c'est l'État, c'est les partenaires sociaux, le paritarisme, mais c'est aussi les opérateurs privés qui participent au débat avec cette interview très intéressante de Marie-Astrid Quentin-Mauroy, présidente de Tagérim Promotion, du groupe Tagérim, qui revient sur l'actualité des débats qui traversent aujourd'hui le monde immobilier. Elle revient sur les propositions qui ont été portées par l'intermédiaire des acteurs du Grand Paris, sur notamment le problème des permis de construire. Elle nous dit qu'il faudrait se donner des objectifs de construction avec une vraie récompense pour les municipalités, élargir les zones géographiques du Pinel, agrandir la part du pourcentage de PTZ autorisé. Il y a aussi la régulation de la fiscalité qui, mise bout à bout, est très sévère. Taxes d'aménagement, TVA, impôts sur les sociétés, cela donnerait plus d'aisance aux promoteurs. Une interview intéressante, qui par beaucoup d'aspects aborde des sujets qu'on a l'habitude de couvrir, mais avec des axes que je trouve voilà pertinents et rafraîchissants. Je vous conseille donc cette interview de Madame Quentin Mauroy, qui est la présidente de Tagérim Promotion. On continue toujours sur le logement. Logement social, Emmanuel Wargon, qui dans le cadre d'un débat sur le thème de l'impact de la RLS, vous savez, la réduction de loyer de solidarité qui avait été mise en place 2017-2018, elle nous dit, on peut pas dire que les résultats actuels du logement sont dus à cause de la RLS. Enfin, c'est la crise sanitaire, au renouvellement des exécutifs municipaux. Donc, on voit toujours un petit peu le débat, le dialogue de sourds hein, entre ceux qui disent « Ah, c'est de la faute de l'État », et d'autres qui disent « Non, c'est de la faute des élus locaux qui ont gelé les permis de construire et la crise sanitaire ». Bon, donc c'est un débat qu'on suit. Elle nous dit, la ministre Emmanuel Wargon, qu'elle entend les inquiétudes. Elle dit « Néanmoins, en 2018 et 2019, les premières années de mise en œuvre, l'activité du secteur HLM s'est maintenue avec 105 000 et 110 000 agréments par an », citant un référé de la Cour des comptes sur le dispositif. Le ministre indique que, comme l'a souligné la Cour des comptes, les impacts de la RLS ne peuvent pas encore être pleinement mesurés. Donc, c'est à retrouver sur News Tank Cities, ça nourrit le débat, c'est un complément d'information pour, je crois, donner de la robustesse aux échanges et aux analyses des uns et des autres. Toujours du côté d'Action Logement, là aussi, document News Tank Cities, 525 millions d'euros de subventions et 100 millions d'euros de titres participatifs pour le logement social. Le détail est à retrouver sur News Tank Cities. C'est les deux axes du soutien d'Action Logement à l'objectif de construction des 250 000 logements sociaux en 2021 et 2022 et à la réorganisation du secteur HLM annoncé par le ministère de la Transition écologique. C'est à retrouver sur News Tank Cities et l'ensemble des liens permettant d'aller directement sur les dossiers de subvention. Mal logement en Europe, on prend de la hauteur, les jeunes sont aussi vulnérables que le reste de la population, sinon plus, serions-nous tentés de rappeler au regard de ces nombreuses tribunes, déclarations, interviews que News Tank Cities égrène au fil des semaines. Donc c'est Sarah Koupchou qui est chargée d'études Europe à la Fondation Abbé Pierre qui nous dit les jeunes sont aussi vulnérables que le reste de la population. 17% de la population de l'Union européenne a entre 15 et 29 ans et un jeune sur trois vit dans la pauvreté. 18% des jeunes sont sans emploi, en hausse de 3% depuis février 2020. Cela a des conséquences sur le logement et les jeunes subissent depuis 10 ans des difficultés pour se loger et n'arrivent pas à quitter le domicile familial. Beaucoup de chiffres, beaucoup d'éléments, des zonages qui sont assez intéressants avec des comparaisons européennes. La Fondation Abbé Pierre note une déconnexion entre revenus et loyers, tandis que les filets de sécurité sont insuffisants et que le chômage est en hausse. En Espagne, par exemple, 40% des moins de 25 ans sont sans emploi. En France, ce sont 20% des jeunes et 40% des jeunes en quartier prioritaire de la ville. Donc, les propositions sont portées par la Fondation Abbé Pierre hein, et elles sont reprises ici avec tout un récap réalisé par News Tank Cities, intégrer la dimension accès et maintien dans le logement des jeunes, développer les garanties offertes aux locataires, assurer l'aide au logement, développer une offre de logement adapté et abordable, l'accès au logement social, le marché locatif privé est aussi abordé, les solutions pérenne sur les stratégies intégrées de long terme dans la lutte contre le mal logement, un très beau document où on peut retrouver un certain nombre de mesures que nous n'avions pas entendues précédemment avec une analyse très 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 précise et très solide. Toujours immobilier pour terminer sur la partie immobilier, service en ligne pour les locataires des biens de l'État. Vous savez, l'État avait mis en place une plateforme numérique avec un portail unique sur la vente immobilière des biens de l'État. Eh bien, c'est la même chose, mais sur la location des biens, y compris sur les longs termes. Les services de l'État et les établissements publics nationaux pourront mettre en œuvre des mesures de publicité et de sélection préalable à la délivrance des titres d'occupation de manière alternative ou complémentaire aux autres mesures de publicité. On va suivre ça de très près. On a eu un certain nombre d'acteurs de la promotion immobilière, du coworking et du co-living qui nous ont appelés d'ailleurs suite à la publication de cet article hein, la semaine dernière pour demander des contacts, ce que nous avons fait. News Tank Cities est aussi un écosystème pro-business, même si nous ne faisons pas de publicité et restons totalement indépendants. Immobilier ancien, pris en hausse de 5% sur un an. LPI se loger, Michel Mouillard, que l'on salue, que l'on remercie pour sa bienveillance à l'égard de nos équipes de journalistes et de rédacteurs, prix en hausse de 5% sur un an dans 75% des villes de 100 000 habitants. 16% à Angers et Metz, 14% à Limoges, soit un rythme 3 fois plus rapide qu'il y a un an, 13,4% à Orléans, 12,1% à Mulhouse, 3,9% à Paris, soit 2 fois moins qu'il y a 4 ans avant que le ralentissement ne s'amorce. Donc on est là sur le baromètre qui recense les villes de plus de 100 000 habitants où les prix ont le plus progressé à fin avril 2021. C'est à retrouver sur News Tank Cities. Une belle cartographie aussi sur ces 16 villes. Hein, c'est assez intéressant. Ça permet de se rendre compte d'un certain nombre de choses. On ne sait pas encore la grande transhumance vers la campagne. Hein. Lyon, on est à plus 8,6% sur un an, à 5 623 € du mètre carré. Toulon, plus 7,2. Rennes, donc tout un tas d'éléments qui concourent aussi à apporter du grain à moudre à ceux qui parlaient des effets de l'hyper-industrialisation, évidemment Pierre Veltz, mais aussi ce qui peut être porté sur les réorganisations spatiales à la suite des crises et l'accélération des métropolisations dans la réaction des richesses, dans la création des richesses, c'est à suivre sur News Tank Cities. Métropole, inventons la métropole, troisième appel à projet pour rééquilibrer les territoires après le grand succès des deux premiers. C'est Patrick Ollier, reconversion de bureaux, reconversion de friches urbaines, aménagement des quartiers-gares. C'est les trois thématiques de la troisième édition. Plus de précisions sur notre application ou notre plateforme. Alors, on a parlé de précarité des jeunes. France Urbaine s'y colle avec 4 scénarios qui sont proposés au gouvernement. Privilégier l'accès aux biens et services essentiels contre la précarité, droit universel à l'accompagnement vers l'emploi, universalisation de la garantie jeune, revenu de solidarité jeunesse, c'est à retrouver sur News Tank Cities dans le détail, porté notamment par Johanna Roland et l'ensemble de son équipe. Et elle nous dit « Ces scénarios proposés au gouvernement ne nécessitent pas de changement de compétences et ne s'inscrivent pas dans la loi 4D. » Loi 4D que nous avons commencé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à suivre dans sa préparation et guetter avec beaucoup d'attention les contenus à ce sujet qui arrivent sur News Tank Cities. Aménagement, ZAN, à travers l'artificialisation se pose la question de l'aménagement du territoire. C'est le colloque organisé par Caisse des dépôts et consignations biodiversité, la filiale dédiée de la Caisse. Dans ce webinaire, l'objectif zéro artificialisation est abordé par la ministre Emmanuelle Wargon. Elle nous rappelle les 1800 amendements en commission, 1300 en séance, sur cette partie-là. Elle nous dit que le domaine est assez complet, en tout cas sur la partie texte de loi. L'objectif du ZAN, on vous le rappelle, hein, il est posé zéro artificialisation nette pour 2050, ça n'était pas dans le projet de loi initial. Réduction de 50% du rythme d'artificialisation dans les 10 prochaines années, c'est posé. La définition de l'artificialisation, c'est là peut-être que le bât blesse, en tout cas pour nous, médias, parce que cette définition est renvoyée à un décret pour le préciser. Bon, donc on va voir, après que pendant un an et demi, deux ans, le banc et l'arrière-ban des analystes, urbanistes, programmistes et autres spécialistes des questions urbaines se soient penchés sur la question, que cela soit renvoyé à un décret, ça laisse perplexe. Je m'arrête là, la déclinaison opérationnelle, cela nous rassure, de tout cela est posé en lien avec les SRADET, les schémas régionaux d'aménagement, vous savez, au niveau régional, SCOT et PLU. On s'avance tout doucement vers la fin avec nos salutations à Patrick Jarry, président de la Fédération des entreprises publiques de l'habitat, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, qui viennent de signer une convention de partenariat pour renforcer leurs échanges. Deux grands axes de convention à ce partenariat, partage des connaissances, on sait qu'il y a beaucoup d'EPL, les établissements publics locaux, les SEM, qui travaillent sur ces questions énergétiques, y compris des SEM énergétiques. L'ADEME ne cesse de déployer des appels à projets et des plans de soutien. La cartographie, c'est le deuxième axe après le partage de connaissances, de l'activité des EPL dans le champ de la transition écologique sur la base des systèmes d'information de l'ADEME et de la FEDE des EPL. Ça avance, on est dans le domaine opérationnel, on les félicite, bon vent et bonne chance à ce partenariat. Et je conclue avec un appel pour le 12 mai. C'est à retrouver sur News Tank Cities, le deuxième webinaire avec le PUCA, avec la Fabrique de l'Industrie, avec la Caisse des dépôts, illustré en conclusion par cette interview de Gilles Novarina, professeur urbaniste, spécialiste des questions des zones d'activité. C'est passionnant puisque c'est la ville productive, dit webinaire, couvrira pour cette deuxième édition Gilles Novarina, dédié aux zones d'activité. L'implication des collectivités est une spécificité française, nous dit Gilles Novarina dans cette interview. Il revient sur cet esprit contre-productif, ces injonctions contradictoires. On veut réduire le déplacement travail-domicile, mais on repousse toujours plus loin les zones d'activité. Il nous rappelle les centaines d'hectares déclassés, que ce soit en Île-de-France, métropole du Grand Paris, Paris, Auvergne-Rhône-Alpes, déclassés, c'est-à-dire ça ne devient plus des zones d'activité dans les plans ou les SCOT, on les repousse toujours un peu plus loin. La question du mètre carré, la question de leurs obsolescences, la difficulté de ces zones d'activité où souvent le décideur public et privé sont tentés d'en refaire de la zone de logement. Or, on sait que la transition urbaine réussie passera par des mixités d'usage, par l'intégration des fonctions de la ville dans l'écosystème, de manière à rendre bien plus efficiente l'utilisation des mètres carrés et réduire dans le même élan les émissions et l'ensemble des effets négatifs tels que la congestion dans le cadre des mobilités, sans évidemment oublier le transport des marchandises, qui, rappelons-le, représente plus de 50% des émissions de CO2. Gilles Novarina, les webinaires du PUCA en partenariat avec News Tank, la Fabrique de l'Industrie, la Caisse des dépôts, c'est le 12 mai. Vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à demain. Jusqu'à demain, donc on est lundi, donc jusqu'à mardi. C'est fini pour ce numéro de News Tank Cities, le podcast. Je vous souhaite une belle et heureuse semaine. Je vous souhaite rester préservé des conséquences les plus graves de la pandémie que nous vivons. Et puis, petit à petit, on voit les premiers rayons de soleil, le retour en terrasse qui se profile, peut-être la sortie du tunnel et surtout, bien évidemment, peut-être le fait de se revoir très bientôt en physique, comme on dit désormais, pour échanger, débattre et travailler à l'avenir de nos villes et de leur transition. À toutes et à tous, bonne semaine et merci encore d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast.